Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ouais, oui, tiens. Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un réalisateur qui a, en très peu de temps, insufflé un peu de nouveauté dans la SF. Je vais vous parler de Neil Blomkamp. Neil Blomkamp est né le 17 septembre 1979 à Johannesburg, en Afrique du Sud. À 18 ans, il part au Canada pour étudier en école de cinéma. À la sortie de l'école, il se spécialise dans les effets visuels, notamment pour les séries Smallville, une série retraçant les aventures d'un Superman adolescent, et Stargate SG-1. Il réalise ensuite des clips publicitaires, en particulier un pour Citroën où l'on voit une voiture se transformer en robot et entamer quelques pas de danse. Une certaine prédisposition pour mettre en scène des robots. En 2004, il réalise son premier court-métrage, Tetraval, une fausse pub pour des robots humanoïdes à destination des forces de l'ordre. 2 ans plus tard, Adicolor Yellow met en scène un cyborg rebelle qui met en échec les mercenaires à sa poursuite. La même année, il réalise Alive in Joburg. Il s'agit d'un faux reportage qui raconte la vie quotidienne d'aliens réfugiés en Afrique du Sud et de leur cohabitation difficile avec les autochtones. C'est ce court-métrage qui va le faire connaître du grand public et aussi taper dans l'œil d'un producteur-réalisateur néo-zélandais, Peter Jackson. Il va demander à Blomkamp de réfléchir à une adaptation live au cinéma du jeu vidéo Halo. Après la réalisation de 3 courts-métrages dans l'univers du jeu, le projet est abandonné, son coût étant jugé excessif. Neil, oui je l'appelle Neil, c'est plus simple, décide alors de se lancer dans la réalisation d'un long-métrage, District 9, qui sort en 2009. Le film en question reprend le sujet du court-métrage Alive in Joburg. Nous sommes à Johannesburg, un vaisseau spatial s'est stabilisé à quelques centaines de mètres au-dessus de la ville. Dans un premier temps, rien ne se passe, aucun signe des occupants du dit vaisseau. Les autorités décident d'entrer dans le vaisseau et découvrent des extraterrestres en perdition, affamés et désemparés. Ils sont alors envoyés de force sur la surface de la planète et parqués dans des bidonvilles. Les districts. Le film commence 28 ans plus tard. Il se présente dans sa première partie comme un documentaire en immersion auprès des membres de la MNU. La MNU est un organisme privé qui gère la présence des extraterrestres sur Terre. Le faux documentaire est axé sur Vicus Van de Merwe qui supervise le déménagement des extraterrestres, aussi appelés les crevettes, vers un nouveau district. Au cours d'une opération de relogement pour le moins musclée, Vicus, oui l'appareil, on va se contenter du prénom, reçoit au visage un liquide noirâtre. C'est à partir de ce moment que tout va commencer à partir de travers pour ce pauvre Vicus. Dans les premières heures après l'exposition aux produits inconnus, il tombe progressivement malade, il va entre autres vomir sur son gâteau d'anniversaire. Les changements physiques apparaissent rapidement, et il devient vite clair que l'ADN de Vicus se mêle à celui des crevettes. À la terreur du pauvre homme répond l'intérêt de ses employeurs, qui voient dans cette hybridation, aussi imprévue qu'inespérée, une opportunité stratégique et commerciale. Le héros devient alors un sujet d'expérience pour des scientifiques peu scrupuleux. Il parvient à s'enfuir de justesse avant un démembrement en bonne et due forme. Le pauvre homme, qui n'était qu'un bureaucrate lambda, va devenir en quelques heures la personne la plus recherchée d'Afrique du Sud et potentiellement un être d'une valeur incommensurable. Les équipements aliens ne fonctionnent qu'au contact de l'ADN alien. Les dirigeants de la MNU se voient donc ouvrir un arsenal d'une efficacité redoutable. À condition de retrouver Vicus, ce qui n'est pas simple. De son côté, Vicus a peut-être un moyen d'être guéri et de stopper sa mutation. Un des aliens lui dit que le vaisseau qui plane au-dessus de leur tête dispose de quoi le soigner. Mais pour s'y rendre, il faut du carburant pour alimenter une sorte d'annexe cachée sur Terre qui peut emmener ses occupants vers le vaisseau mère. Ce carburant, c'est le liquide noirâtre dont Vicus s'en est aspergé le visage un peu plus tôt. Ironie quand on y tient. La capsule contenant le fameux carburant est au siège de la MNU. Vicus et son ami de sa Constance vont donc aller le chercher au cours d'un raid aussi improvisé que violent. L'armement extraterrestre faisant des merveilles, si je puis dire. L'alien se rend alors compte que la MNU, qui n'en est plus à une ignominie près, dispose d'un laboratoire où elle dissèque ou voire même torture des aliens. Une fois le carburant récupéré, tout ce joli monde retourne vers le district 9. Mais Vicus est toujours la cible d'une chasse à l'homme, qui voit intervenir une nouvelle faction, des trafiquants d'armes digériens. Cela donne lieu à un affrontement très violent pour savoir à qui aura le droit de déposer le pauvre homme. Une fois encore, il en ressort vivant, mais encore un peu plus changé. La mutation s'accélère. L'annexe finira par décoller, sans lui, mais avec la promesse de revenir pour le guérir. Le sous-texte du film est très clair, dénoncer l'apartheid. Une race qui se trouve parquée dans des bidonvilles est traitée d'une manière ignoble. Et présenter une vision pour le moins singulière de la première rencontre humain-extraterrestre. Au début du film, un des acteurs dit qu'on s'attend à voir les extraterrestres débarquer à New York, pas à Johannesburg. On est à milieu de la version romantique, voire éthérée, que l'on voit dans Rencontre du troisième type. Ici, rien de glamour. Ce ne sont pas des Vulcains bien propres sur eux et stoïques. On a affaire à des êtres recouverts d'une carapace qui ont des coutumes, un régime alimentaire totalement différent des nôtres. Ça n'envoie pas du rêve, comme on dit. Ici, les aliens sont là parce que leur vaisseau est en panne. On les en extirpe sans vraiment leur demander leur avis et on les parque sur Terre dans une société violente et en proie à un clivage racial. Le fait même qu'on les surnomme les crevettes dit déjà beaucoup de choses. Le terme crevette, traduit en afrikaner, langue officielle en Afrique du Sud, rappelle celui de kafir, qui désigne de manière péjorative les noirs sud-africains. Car on voit que le vaisseau est arrivé en 1982. L'apartheid est aboli en 1991. Ce film est une sorte de manifeste de la vision de la science-fiction par Neil Blomkamp. On en avait déjà eu un aperçu avec Alive in Joburg, mais ici c'est encore plus marqué et développé. Normal pour un long métrage, me direz-vous. La science-fiction de Neil fait la part belle au méca-design, purement mécanique, mais aussi une sorte d'entre-deux avec un côté organique très poussé, explicite, voire cru. Les armes aliens produisent des effets spectaculaires sur leurs cibles, et on le voit très bien à l'écran. Pas de simple évocation d'un coup au but. Bien souvent, lors d'un tir d'arme, il y a l'image du « résultat », entre guillemets. Cela va d'un membre découpé à l'explosion pure et simple d'un corps. C'est à se demander comment le film est classé tout public. Ce mélange mécanique-organique, on le retrouve dans son deuxième film, « Elysium », qui sortira en 2013. Dans ce film, c'est la lutte des classes qui est mise en avant, et d'une manière très poussée, voire quasiment de façon manichéenne. L'action du film se déroule en 2154, sur Terre, ainsi qu'en orbite autour de la planète. Le héros est un ancien voyou qui a décidé de regagner le droit chemin. Il travaille maintenant dans une usine où l'on fabrique des robots. Il vit dans une petite maison, mais pas dans la prairie. Plutôt au milieu d'un bidonville qui s'étend à perte de vue. Et ce paysage semble être le même partout sur Terre. Au quotidien, il doit composer avec des voisins qui essayent de le faire replonger dans la truanderie, une police robotisée qui n'a mais alors pas du tout le sens de l'humour et des conditions de travail pour le moins compliquées. C'est justement à son travail que son destin va prendre un tournant dramatique. Il est exposé à une dose mortelle de radiation. Le diagnostic est implacable. Il ne lui reste plus que 5 jours à vivre. Son salut se trouve à quelques centaines de kilomètres, dans l'espace, sur Elysium pour être précis. Cette station spatiale est le paradis en orbite terrestre. C'est là que vivent les humains les plus fortunés, bien à l'écart des simples rampants, pauvres et malades. On trouve dans cette station des capsules médicales, ressemblant à des solariums qui peuvent guérir de tout en quelques instants. Mais c'est là que ça se complique. N'entre pas qui veut sur Elysium. C'est un paradis, certes, mais gardé par des cerbères. Et toute tentative d'y accéder se conclut bien souvent par un échec. Et cet échec, ce n'est pas juste une petite tape sur les doigts. Il s'agit parfois d'un missile qui cible le vaisseau dans lequel vous êtes.
Attention incoming vessels. You are in violation of Elysium airspace. Return to Earth or we will be forced to take immediate action.
Standard warning didn't work.
What do you want us to do, ma'am?
Activate Kruger.
Pour avoir la moindre chance de passer, il faut aller voir un passeur qui vous donnera une fausse identité et vous mettra dans un vaisseau contre une somme rondelette. Or, cet argent, Max, le héros, ne l'a pas. Le passeur va lui proposer un marché. S'il accomplit un braquage pour lui, il pourra avoir un accès à Elysium. Pour accomplir ce braquage, on lui implante une puce à même le cerveau et on lui greffe un exosquelette. Par souci du détail, et comme à son habitude, Neil détaille cette scène avec beaucoup de minutie. On retrouve là son côté hybride, mécanique, organique. Le braquage va bien évidemment foirer, et Max va devoir échapper à des mercenaires. Car il a braqué le cerveau d'un citoyen d'Elysium, qui possède les codes de l'ordinateur central de la station spatiale. Blessé, il ira demander de l'aide à une amie infirmière qui le soignera chez elle. L'ami en question est une fille malade, et elle voudrait elle aussi aller sur Elysium. Mais tout juste soigné, Max refuse et la plante sur place. Niveau gratitude, là on est pas mal. Doit-on le considérer comme un trouduc ? Libre à vous. Pour ma part, oui. C'est un point commun pour les deux premiers films de Blomkamp. Le personnage principal est un anti-héros. Vicus, dans District 9, est un benêt dépassé par la situation. Un simple gratte-papier qui se retrouve face à une situation exceptionnelle. Là, Max essaye difficilement de vivre une vie honnête, et face à une mort certaine et imminente, va replonger dans le crime par peur de sa fin inéluctable et agir égoïstement. Il réussit tout de même à atteindre Elysium, mais en tant que prisonnier. La fille de son ami est finalement sauvée. Pas lui. Dans un ultime sursaut humaniste, il reprogramme l'ordinateur central de la station et désigne tous les habitants de la Terre comme des citoyens d'Elysium, avec tous les avantages qui en découlent. Ce film fut critiqué par son manichéisme un peu simpliste. Certaines situations sont peut-être caricaturales, mais c'est aussi le rôle d'une œuvre de science-fiction de forcer le trait pour mettre en avant une idée. Troisième film, Chappie, sort en 2015. On retourne à Johannesburg, toujours en proie à une violence incontrôlée. Les autorités décident de faire appel à la société Tetraval, qui fabrique des androïdes policiers appelés les Scouts. Scout peut être traduit par éclaireur ou sentinelle. Ils accompagnent les policiers dans leurs missions risquées et même les précèdent pour prendre les coups à leur place. C'est d'ailleurs ce qui arrive au Scout numéro 22. Un vrai poisson, celui-là. À chaque sortie, il morfle. lors de la dernière opération, il va vraiment déguster. Il se prend une roquette en plein torse, rien que ça. Parallèlement, on découvre le personnage de Deon, l'inventeur des scouts. Jeune homme talentueux, les scouts ne sont pour lui qu'une première étape. Son rêve, créer une intelligence artificielle, douée de conscience et consciente de sa propre existence. Et il y arrive, sur son ordinateur, chez lui, au beau milieu de la nuit, après d'innombrables essais. Mais sa patronne ne veut pas en entendre reparler. C'est là qu'il croise le chemin de numéro 22, qui est promis à la destruction. Il va alors voler le robot pour l'amener chez lui et lui implanter l'intelligence artificielle. Du moins l'espère-t-il. Car sur le chemin de son domicile, il se fait braquer par des voleurs à la petite semaine. Leur but, éteindre les robots policiers. Leur raisonnement se tient. Ce sont des machines, et une machine, ça s'éteint. Et ils vont donc obliger leur créateur à les éteindre. Ça serait tellement simple, mais ça ne marche pas comme ça. Les truands vont alors découvrir le robot dans le fourgon de Deon et vont le forcer à le reprogrammer pour qu'il suive leurs ordres. Une drôle d'association va se créer pour remettre en état numéro 22 et lui implanter l'IA. Le robot s'éveille et on découvre que, comme tout être vivant qui naît, l'IA réagit comme un enfant. D'abord guidé par la peur, le robot renommé Chappie fait ensuite preuve d'une grande curiosité et apprend à grande vitesse. Mais il reste encore un esprit jeune, à la fois craintif et naïf. Naïveté dont vont se servir les truands pour lui faire commettre des crimes. En rusant pour lui faire croire que le vol de voiture est une façon de récupérer un bien accaparé par autrui. Ou de lancer un couteau sur quelqu'un, pour qu'il fasse un gros dodo. Il est étonnant de voir les différences de comportement des différents personnages envers le robot. Deon, l'inventeur, se présente comme le créateur, avec toute la symbolique religieuse qui en découle. À plusieurs reprises, il revendiquera ce statut et demandera à Chappie une obéissance totale. Les truands, une femme et deux hommes, auront une relation plus familiale. L'anthropomorphisme joue à fond, et les rôles se distribueront de manière naturelle. La femme s'attribuera le rôle de maman, le chef de l'équipe celui de papa, et le troisième sera un peu comme un frère ou un ami. La mère aura une fonction protectrice envers l'enfant qui est toujours l'IA. Le père, quant à lui, sera l'éducateur, celui qui voudra en faire un homme, un vrai. Autant la mère peut paraître sincère, autant le père joue sur les sentiments du robot.
Chaussures ! Dis ? Chaussures !
C'est pour tes pieds, frangin.
Attends, attends, Chappie, regarde ! Rat ! Il est gentil !
Non, il est débile, il sait pas parler, on est niqué, je te dis.
Non ! Il sait parler, il est malin.
Non, il sait parler, il est malin.
Oh mon Dieu, regarde, il imite.
Oh mon Dieu, regarde, il imite.
Chappie, dis chaussures.
Chaussures.
Chaussures, dis rat.
Rat.
Dis maman.
Dis maman. Chappie.
Chappie.
Chaussures.
Chaussures.
Rat.
Rat.
Maman.
Maman.
Vous êtes sérieux là?
Il est venu l'éduquer, non, c'est tout, on était en train de...
J'ai besoin d'une machine à tuer. Il n'est pas là pour peur.
Mais une fois que circule l'information qu'un scout a été reprogrammé pour aider des voleurs, c'est une autre affaire. Un collègue de Deon met en avant un autre projet et va tout faire pour éliminer le créateur et ses créatures. Peine perdue. Deon est gravement blessé et le collègue mis hors d'état de nuire. Chappie se révèle être doué en informatique et propose à Deon de transférer son intelligence dans un robot avant de mourir. La fin du film voit deux robots totalement libres s'enfuir dans Johannesburg. Le traitement de la « naissance » entre guillemets de l'IA par Neil Blomkamp est pour le moins original. Car « naissance » est le mot juste. On ne voit pas une entité être pleinement consciente et capable dès les premiers instants de son existence, comme Ultron dans Avengers. Au premier instant de sa mise au monde sous la forme d'un robot humanoïde, l'IA va se cacher pour se protéger et est apeurée. Il va falloir l'éduquer, l'aider à grandir, apprendre un tas de choses comme on le ferait pour un véritable enfant. Enfant que Chappie restera pendant tout le film. Il y a aussi une autre question. Quels sont les critères pour déterminer si un être est vivant? Doit-on s'arrêter à la définition d'un être organique? Dans ce cas, les personnes avec des prothèses sont-elles moins des êtres vivants? Vous me direz, dans le cas d'un robot, on enlève sa batterie et hop, plus rien. Je vous répondrai, administrer une décharge électrique à un humain et hop, plus rien. Pas la peine d'essayer, hein, on est bien d'accord, c'est de la théorie. Elysium et Chappie, même s'ils sont de bons films, n'auront pas le succès des Districts 9. Il est vrai qu'ils souffrent de la comparaison qui a été le choc de la découverte de son premier long métrage. Il aura ensuite l'occasion de travailler sur un hypothétique Alien 5 avant d'être dirigé vers la sortie par Ridley Scott qui décide de réaliser Prometheus. Il commence également la pré-production de Robocop Returns, la suite directe du premier Robocop. Mais là aussi, patatras, il quitte le projet, il semblerait pour cause de mésentente avec la MGM. Quand ça veut pas... Entre-temps, il va créer les studios Oats en 2013 et va réaliser plusieurs courts-métrages dans la même veine que ses précédentes réalisations. De la bonne vieille science-fiction dystopique et bien organique comme il faut. Sur sa chaîne YouTube, vous retrouvez pêle-mêle des téléachats qui tournent mal, des pastilles qui se payent ostensiblement la tronche de Donald Trump, mais aussi trois courts-métrages d'une qualité exceptionnelle. Mais attention, ils sont gore, à la limite du film d'horreur. Raqqa, qui raconte les efforts désespérés des terriens pour résister à une invasion extraterrestre. Firebase, un mix entre Apocalypse Now et Akira. Zygote, un huis clos entre deux survivants et un monstre sorte de patchwork humain. À ne pas louper, deux pépites, intitulées God, Dieu en anglais. On y voit Dieu dans un salon au mur recouvert de boiseries qui joue à Dieu. À une particularité près, le monde se résume à un paysage de la table d'une table, où l'on voit évoluer de tout petits êtres humains. Et il s'amuse avec eux en faisant preuve parfois de sadisme. Nous espérons tous qu'ils veulent refaire le coup de Alive in Joburg en transposant un de ses cours au cinéma. Au moment où j'enregistre cette émission, Neil a annoncé travailler sur un nouveau film dont on ne sait pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui fait que le travail de Neil Blomkamp vaille le détour ? Il a débuté sa carrière comme spécialiste des effets spéciaux, il en connaît la mécanique et sait les intégrer au mieux dans ses œuvres. Et ils vieillissent plutôt bien. Quand on revoit District 9, on est bluffé par l'aspect des crevettes et leur intégration dans le décor. Pareil pour Chappie, je me demande qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, tant le rendu des robots est réaliste. Ce sont aussi les thèmes abordés dans les films. L'apartheid, la lutte des classes, la notion de la vie. Neil Blomkamp, c'est une vision très personnelle, heureusement encore, de la SF. Pas glamour pour un sou, réaliste dans la mesure du possible, dystopique, violente. Sa jeunesse en Afrique du Sud n'y est peut-être pas pour rien. Et c'est surtout son hybridation mécanique-organique qui fait un véritable marqueur de son œuvre. Il est encore jeune. Il a 40 ans et déjà un sacré CV. Il a encore le temps de faire beaucoup de choses, bonnes ou pas. Ça, c'est le futur qui nous le dira. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain numéro de l'émission. Vous prendrez bien un peu de science-fiction.